Alain Omis, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Nous visitons, ça va, nous visitons votre exposition, une visite privée, il faut le dire, et on a cette chance.
Il faut dire qu'elle est privée, effectivement, parce que j'ai fait ouvrir ce matin spécialement.
Bon. Alors, nous allons partager cette visite avec nos lecteurs habituels, ceux d'ici Martinique et de macacla.com. Nous visitons Rad Cabane d'Alain Omis. C'est une expo qui se déroule jusqu'au 27 juillet 2019 avec comme commissaire à l'exposition Patricia Donatien. Parlez-nous d'elle parce que je crois qu'elle a un rôle très important dans la mise en valeur de ce que vous réalisez.
Ici, c'est marqué commissaire à l'exposition, mais Patricia est beaucoup plus que commissaire à l'exposition. Elle est ce que j'appelle la muséographe, c'est-à-dire qu'elle fait à la fois le commissariat, c'est-à-dire le choix des œuvres qui vont être présentées, et elle a également décidé de quelle manière, lors du lancement des œuvres, allait être organisée. C'est-à-dire que quand on rentre dans l'exposition, il y a telle toile qu'on voit à droite, pour telle raison, à gauche, pour telle raison. Et le cheminement est un cheminement tout à fait logique et qui n'est pas le fruit du hasard. Et il n'y a pas d'interférence des œuvres entre elles, comme ça peut arriver quelquefois dans une exposition où, parce qu'on manque de place. Non, il fallait que les œuvres puissent respirer, qu'elles puissent s'étendre, qu'elles puissent parler, qu'elles puissent échanger avec le public.
Alain Omis, nous allons visiter cette exposition, mais est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes avant de découvrir ce qu'à travers vos œuvres, vous nous expliquez?
Je suis un petit bouc de Fort-de-France. Je suis né à Fort-de-France. 0 km 200 route de la folie. Alors, ça explique cela. Je suis né en 1950, donc je suis un peu vieux. Dans 10 mois, j'ai 70 ans et dans 11 ans, j'ai 80 ans. Donc ça va, je suis un peu jeune encore. Et puis, bon, j'habite Fort-de-France. Actuellement, j'habite Chelcher plutôt. J'ai donc habité Fort-de-France, je suis parti à l'étranger, j'ai vécu ailleurs, partout, puis je suis rentré chez moi.
On parle souvent de votre carrière de diplomate, puisque vous l'avez été, mais on ignore au moins que vous avez surtout été un homme de culture, et pendant très longtemps, vous avez écrit, notamment en Martinique, dans le journal France Antilles, c'était à l'époque de Pierre Lucet et compagnie, et vous étiez critique d'art.
À l'époque, ce qui s'est passé, c'est que je suis en Martinique en 82, on a créé avec des amis, avec mon beau-père qui est décédé actuellement et quelques autres personnes, on a créé un journal quotidien qui s'appelait Côte des Antilles, qui a capoté évidemment. Et après, Henri Mangata, qui était directeur de France Antilles, a demandé à Daniel Compère, pour ne pas le citer, est-ce que je pouvais venir travailler pour eux. Et Daniel m'a appelé en me disant il y a monsieur Henri Mangata qui veut te voir, il faut que tu ailles le voir. Donc je suis allé voir monsieur Mangata qui m'a demandé d'écrire. Donc j'ai commencé, comme j'écrivais déjà à l'Écho et j'écrivais au Naïf, j'écrivais dans plusieurs magazines, j'ai accepté. Et je veux dire qu'avec Henri Mangata, c'était un moment précieux de respect mutuel, parce que j'avais posé une condition, c'est que mes papiers restaient tels qu'ils étaient. Il n'y a pas de correction, sauf en ma présence. Et il a respecté ce marché-là. Et ensemble, on a fait la page littéraire du vendredi, on a fait les grandes interviews qui avaient lieu le samedi dans le journal, on a créé le supplément télé qui existe actuellement, parce que, à cause de Kassab d'ailleurs, parce que c'est une soirée assez drôle d'ailleurs. Parce que...
Oui, nous en reparlerons de Kassab.
Oui, non, c'est une soirée, je peux en deux mots. J'étais le seul journaliste au premier concert de Kassab au Zénith, et j'avais fait un papier en rentrant, Zoukla, c'est seulement des Kamamouni, moi malade. Et les journaux s'est vendu à 10h, il n'y a plus un seul journal en ville. Donc Henri m'appelle chez moi en disant « Alain, viens me voir ». Il m'engueule, il me dit « Qu'est-ce que c'est cette histoire ?» Il me dit « Tu as dû me dire que… » Ils ont dû tirer une deuxième fouille du journal. Et après, ils ont décidé de créer le supplément de télévision. Donc c'est vrai qu'il y a… c'est drôle. Donc j'ai écrit en théâtre, au cinéma, en musique, en peinture. En peinture parce que justement, comme j'étais en préfecture en même temps, j'ai l'occasion d'organiser l'exposition de plusieurs artistes, dont le premier était sans doute pour moi le plus important pour le reste de mon appétence culturelle. C'était Louis Laouché, à la demande du préfet de l'époque, était Édouard Lacroix. Et évidemment, il fallait écrire sur cette exposition. Donc je faisais à la fois celui qui écrivait les discours et celui qui faisait les papiers de la communication. Voilà.
Très bien. Alors, Alain Omis, ça a été facile pour vous de passer justement de celui qui habituellement organise à celui qui produit, parce que là c'est plus du tout le même boulot, c'est-à-dire que finalement vous exprimez ce que vous avez en vous là maintenant.
Non, mais enfin, j'ai toujours continué à montrer. Quand j'étais à Saint-Domingue, j'ai montré l'exposition d'une artiste absolument extraordinaire qui s'appelle Iris Pérez Romero, plus d'autres artistes également, plus Marcos, plus... Quand j'étais en Jordanie, j'ai montré aussi des artistes, parce que j'étais directeur également de l'Institut français. Quand j'étais au Nigeria, j'ai découvert un certain nombre d'artistes. J'ai toujours été proche de la... Juste moi-même collectionneur d'œuvres d'art, toujours été proche de ce monde-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de
frontière, vraiment.
C'est une vraie capillarité. C'est-à-dire, entre, quand je vois un tableau, je sais comment c'est fait. Je sais comment c'est fait parce que, comme j'ai pas mal boulingué autour de la toile, autour des pigments et autour des matières, je sais comment c'est fait. Donc, il n'y a pas de secret. Je sais de quoi je parle quand j'écris quelque chose.
Très bien. Alors, nous allons revenir sur votre expo. Alors, c'est une série spécifique, une série Radkaban composée de combien de tableaux ?
Celle-là, ici, il y a 52 pièces. 52 pièces, je crois. 52 pièces.
D'accord. Le chiffre 52, il est pris par hasard ou...
Non, c'est, ça dépend, c'était 50 pièces. Et Patricia m'a demandé de faire, la veille de l'exposition, une petite pièce blanche qui est là-bas, Innocence. Et elle m'a demandé aussi de faire autre chose, une autre pièce. Un petit bleu là qui est en bas. Parce qu'elle voulait faire la croix ici. Donc, il n'y a pas de... Mon chiffre fétiche, c'est 27 ou 37. Mais en numérologie, j'aime bien le 9.
D'accord.
Mais là, ce n'est pas le cas. C'est un 7.
Très bien.
Bon. On revient à une chose d'ailleurs. 37, 47.
Oui. Alain Omis, sur cette première toile, on va essayer de trouver le lien à travers cette exposition qui est extrêmement riche. Elle est à la fois riche en thématiques, elle est à la fois riche en idées développées, elle est aussi riche en techniques mises en place. Alors, quelles sont, pour commencer, les couleurs dominantes et quelle est la thématique principale de cette série ?
Alors, le Radkaban, c'est, dans mon esprit, c'est l'endroit où l'on se réfugie quand tout est terminé, quand on a fini de travailler, quand on a fini de faire à manger, quand on a fini de faire quoi, de faire l'amour, on se réfugie dans un lit. Donc je monte le dessus du lit, je monte le dessous du lit. Le tableau qui est à l'entrée, qui s'appelle Caresse du volcan, il tient au fait que je me considère comme étant né de la mer et du volcan. De la mer, M-E-R,
oui.
Et du volcan. Parce qu'il y a un aspect tellurique, n'est-ce pas, dans la composition du tableau, avec des pièces, avec de la matière, et avec un drapé qui est beaucoup plus long. Le tableau fait 1m80 sur 1m46, et le drapé fait 2m50 de long, mais qui est ramené à 1m80, avec des plis, avec des... Comment dire, avec un mouvement de comme si c'était un corps. À la limite, on pourrait dire que le tableau, c'est un lit, et le drapé correspond à la femme qui se réveille, qui sort du lit après une nuit d'amour, par exemple.
Dans toutes vos toiles, on trouve presque systématiquement une touche de bleu. Presque.
Le bleu, c'est la mise à blé, comme on dit ici en créole. Pas qu'à parler créole, mais je peux essayer de dire ça. C'est la mise à blé. C'est-à-dire que, si vous voulez, le travail que je produis, c'est un travail qui concerne... Comment nous situons dans notre environnement ? Est-ce que c'est un monde de surconsommation ? C'est un monde dans lequel on ne fait plus attention à rien, on jette, l'obsolescence est programmée, et il n'y a pas de réelle volonté de pouvoir faire survivre les choses. À l'époque de mes parents, de mes grands-parents, on ne jetait rien, les vêtements qui étaient petits, qui étaient usagés, on les mettait sous le lit, et après les gens venaient prendre pour faire le carnaval, ou encore venaient chercher, pouvoir découper, pouvoir créer de nouveaux vêtements pour les enfants. On cherchait des chiffons.
On avait des patchwork aussi.
On faisait tout avec. Donc, on jetait rien. Donc, on est dans une période d'obsolescence programmée, et on a perdu toute mesure. Et d'ailleurs, dans le travail que je fais, chaque morceau de tissu a sa mesure. Parce que je découpe à 4 cm de côté, enfin en principal, parce que quelquefois ça fait moins, quelquefois ça fait plus.
Il y a une raison de ces 4
cm ? parce que c'est carré, parce que c'est carré. C'est, les toiles que j'ai faites, c'est 1m50 sur 1m50, 1m sur 1m. Mais par son carré, sauf celui-là qui fait 1m80 sur 1m46. Je ne me pose pas la question. C'est, ça vient comme ça. Les ciseaux arrivent, clac, je coupe. Il faut que ça rentre, parce que je fais des fleurs après. Vous avez mes fameux bouquets, je fais des fleurs. Donc après, 4 cm, ça passe, clac, que je coupe.
Restons sur la problématique sociétale dont vous avez parlé. Nous allons avancer sur cette exposition. Quand je parlais de problématique sociétale, vous insistez sur le fait aujourd'hui que nous sommes dans une obsolescence programmée, que la Martinique est dans un système de consommation, même de consumérisme. Et en même temps, vous dites qu'il faut qu'on se rappelle d'où l'on vient, alors qu'en réalité, on a presque l'impression que la population veut d'autre chose. Nous sommes ici, cette fois, à... Rappelez-nous le lieu.
Ah, oui, celui-là s'appelle Makouba, Nord-Plage.
Nord-Plage, par exemple. Alors, Nord-Plage, c'est toute une histoire. Oui. C'est l'histoire, justement, de passé oublié. Et c'est l'une des portes d'entrée de votre exposition.
Oui, il faut m'appeler. Cette pièce-là, elle est vraiment très spéciale. C'est-à-dire que j'ai accompagné à plusieurs reprises mes amis à Makouba parce que ses parents sont enterrés dans le cimetière qui est lié à l'église. Et quand on avance dans le cimetière, on voit une espèce de gouffre là, avec les vagues qui attaquent la paroi. Et c'est assez violent.
De manière inéluctable, presque.
Et en dessous, il y a, effectivement, on sait qu'il y a des maisons qui ont été abandonnées, qu'on a demandé aux gens de partir, et encore des églises du type qui restent. Il y a eu un film qui a été fait par José Ayotte et Jean-Luc de la Garrigue, je crois. Et puis, il y a un autre film qui a été fait récemment par Christian Forêt, qui est venu voir l'exposition et qui est resté un quart d'heure. Je ne connaissais pas ce monsieur. Il est resté un quart d'heure devant le tableau, et moi, j'étais assis là, je ne disais rien, parce que je le regardais, et à la fin, il m'a dit « Voici mon film ». Donc, il y a une émotion. Il y a une émotion sur ce tableau-là. Parce qu'on voit, comment est-ce que le pays devient. C'est-à-dire que les maisons qui étaient en dessous disparaissent parce que les vagues envahissent le pays. Et c'est la douleur. C'est la douleur des gens qui ont dû quitter là où ils étaient, là où ils vivaient, là où ils ont fait des enfants, ils ont dormi, ils ont été heureux. Et puis, là. Donc, je crée un monde avec. Avec mes couleurs, il y a du violet en dessous. Et le violet, c'est parce qu'effectivement, il y a l'église en haut, derrière le cimetière, parce que c'est la couleur sacerdotale. Il y a du noir, parce que le noir, c'est la terre. Quoi, parce que on vit dans un pays où la terre est noire, parce qu'on est sur une terre volcanique. Il ne faut pas rappeler que je suis toujours né de la mer et du volcan, parce que la mer, elle est là. Et le volcan, il est là aussi. Donc après, tout est allégorie. C'est-à-dire que je me lance dans un processus de création, et puis... Tout vient au fur et à mesure, donc celle-là, il y a des larmes. Il y en a eu quelques-unes, bon, ça va.
Alain, je vous propose que nous reprenions notre souffle.
C'est bon, c'est bon.